Bonsoir et bon début de semaine à tous, province du Nord-Kivu. Des nouveaux affrontements sont signalés ce lundi matin entre les FRDC et les rebelles du M23 à Mutao. C'est à une dizaine de kilomètres de Goma. D'après le porte-parole des FRDC, c'est le M23 qui a lancé l'offensive. Il ajoute que c'est depuis une semaine que le mouvement rebelle menace d'attaquer la ville de Goma. De son côté, le M23 parle plutôt d'une attaque contre les FDLR. Quelle analyse faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 20 mai 2013. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Honorable Juvenal Munubo, député national de l'opposition, cadre de l'UNC. Il est aussi rapporteur de la sous-commission Forces armées au sein de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Honorable Munubo, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs.
Et Jason Stearns, il est analyste des questions liées à la sécurité. Il est directeur d'un projet de recherche dénommé Projet Ousalama. Jason, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Charles Ingene de Kalima au Maniema. La réouverture des hostilités par les M23 n'est pas surprenante. Les FRDC doivent se battre et empêcher les rebelles de reprendre la ville de Goma. Compter sur la MONUSCO ou la brigade spéciale, c'est signe de ne pas tirer les leçons de l'histoire. Isaac Bampori qui de Bukavu au sud Kivu. Le gouvernement peut-il nous rassurer que cette fois-ci, il a profité de la longue trêve pour s'organiser contre les M23? Il ne faut pas se contenter, je voulais dire, du soutien des Nations Unies qui, rappelons-le, est un appui à l'effort national. Merci de nous suivre à Goma sur la 105.2. Et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Province du Nord Kivu, des affrontements opposés ce lundi matin des rebelles congolais du M23 à l'armée congolaise à Mutao, à une dizaine de kilomètres au nord de Goma, en territoire de Nyiragongo. C'est le M23 qui a mené cette offensive contre les positions des FRDC, selon le porte-parole de l'armée. Mais le M23 parle plutôt d'une attaque contre les FDLR. Depuis cet après-midi, un calme apparent règne dans la région de Mutao. Toutefois, une confusion règne autour de la force qui contrôle Mutao. Des précisions avec Gisèle Cage.
De crépitements d'armes légères et de détonations d'armes lourdes étaient entendus tout l'avant-midi de ce lundi dans le secteur de Mutao, un groupement de Kibati, selon plusieurs sources dans la région. Les forces armées de la RDC face aux combattants du M23 qui les ont attaqués depuis 4 heures du matin. Mutao reste une position stratégique, reconnaît le porte-parole des FRDC. Selon le colonel Amouli Olivier, le M23 a l'intention de passer par cette localité pour couper toutes les voies de ravitaillement aux FRDC à partir de Mugunga. Mugunga, c'est un quartier périphérique de Goma, mais aussi la principale voie d'entrée et de sortie de la ville. Toujours selon le colonel Amouli, c'est depuis une semaine que le M23 menace de réattaquer la ville de Goma. Mais pour le président du M23, Bertrand Bissimwa, si ces hommes ont mené cette attaque à Mutao, c'est pour y déloger le FDLR rwandais qui occupait depuis plusieurs jours leur position. La MONUSCO signale qu'environ 1000 personnes qui fuient ces combats viennent d'arriver au camp de déplacés de Mugunga. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Face à cette reprise des hostilités, la MONUSCO exprime ses préoccupations au sujet de cet incident. Elle souligne que des solutions diplomatiques et politiques sont envisagées. Elle déclare que tous les efforts sont déployés pour contenir et mettre fin à ces affrontements. À propos justement des affrontements dans la région de Mutao, le vice-gouverneur du Nord Kivu déplore que les M23 ne se soient jamais retirés à 20 km tel qu'exigé par les chefs d'État de la CIRGL après la prise de Goma en novembre dernier. Pour Feller Taïchiroua, ce manque de discipline par le M23 est à la base de ces nouveaux affrontements. Feller Taïchiroua appelle ainsi la population de Goma au calme car la situation est sous contrôle des FRDC. Ces propos ont été recueillis par Gisèle Kalj.
Ce n'est pas parce qu'un mouvement aurait gagné quelques combats dans le passé que ce mouvement-là serait amené à gagner toujours dans l'avenir. Nous savons que la population de Goma pourrait être facilement victime des rumeurs par crainte de ce qu'elle avait vécu dans le passé. Mais nous devons dire que l'environnement est différent parce que d'abord, le temps fait qu'on puisse tirer les leçons. Quelqu'un, il peut narguer le monde entier une fois, deux fois, mais pas éternellement. Nous tenons à rassurer la population, qu'elle fasse confiance au FARDC avec nos partenaires. Donc nous pensons qu'il faudra que la population, qu'elle ne puisse pas céder à l'intoxication, mais aussi jouer les jeux de l'ennemi qui est en train de travailler à travers des SMS pour que la population puisse paniquer.
C'était là le vice-gouverneur du Nord Kivu, Feller Lutaichirwa. Julien Paluku, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Quelle est la situation en ce moment, monsieur le gouverneur?
Oui, merci madame. Je voudrais d'abord commencer par adresser mes compassions à ces pauvres populations qui sont encore une fois contraintes à l'errance à la suite de la barbarie humaine. La situation telle qu'est décrite tout à l'heure, c'est une situation de guerre qui a été créée par les M23, mais nous sommes étonnés d'assister à la construction d'un mensonge où les M23 est en train de dire que c'est le gouvernement qui a commencé, alors qu'il y a des évidences, si nous avons une mémoire qui est fidèle. Je peux en retenir trois ou quatre. La première évidence, c'est que, comme vous le savez, avec l'annonce de l'arrivée de la brigade, déjà, les M23 s'étaient adressés au Parlement sud-africain ainsi qu'au Parlement tanzanien pour leur dire si vous envoyez des contingents en Nord Kivu, ils vont y être massacrés par nous. La deuxième évidence, c'est que à l'annonce de la brigade, on a assisté à une campagne d'intoxication du M23 pour dire que voilà, le gouvernement a choisi une option militaire et que, à choisir cette option militaire, il ne va s'apprendre qu'à lui-même. La troisième évidence, c'est que il y a déjà une présence des éléments de la brigade à Goma, ce qui constitue pour nous une sorte de défi lancé au M23. Et la dernière évidence, c'est que ce que le vice-gouverneur vient de dire. Vous savez que dans la réunion du 24 novembre 2012, il avait été demandé au M23 de se retirer jusqu'à 20 km. Mais aujourd'hui, les attaques ont eu lieu à 10 km. Comment le M23 peut-il tromper aujourd'hui l'opinion qu'il était dans ses positions alors qu'il s'est retrouvé à Mutaro, qui est une localité située au nord-ouest de Goma et non pas sur la ligne droite qui va de Goma jusqu'à Kibumba. Et tout le monde sait que dans 48 heures, Ban Ki-moon va arriver en RDC et que pour les M23, la reprise des attaques, c'est une façon de les faire douter, ces stratégies qu'il a adoptées, notamment l'accord cadre et la résolution. Donc pour moi, je trouve que ce sont là les évidences qui sont des éléments probants qui justifient effectivement l'attaque de ce lundi par les M23 pour essayer un peu de contrecarrer tout ce qui peut être comme machine pour devoir les mettre hors d'état de nuire. Mais comme toujours, on utilise la stratégie que moi j'appelle les consommables internationaux, à savoir les FDLR, parce que c'est cela qui est mieux consommé, sachant que en disant que ce sont les FDLR, on sera entendu ça et là. Or tout le monde sait que la marchandise FDLR ne donne pas de l'audience dans la politique internationale à la RDC. On sait quel est le pays qui tire des dividendes et des profits dans cette marchandise qui s'appelle FDLR. Donc je crois que c'est clair aujourd'hui que les M23 voulaient mener des opérations pour faire douter l'arrivée de la force internationale, pour faire douter l'arrivée de Ban Ki-moon. Et ce sont là les premiers éléments que je peux donner par rapport à cette crise qui se vit encore une fois au Nord Kivu.
Monsieur le gouverneur, comment se présente la situation en ce moment à Mutaro? Qui contrôle Mutaro?
Mutaro est totalement contrôlé par les FRDC qui ont pilonné les positions des M23 lorsque les M23 a tenté de venir s'y approcher. Il y a même beaucoup d'armes qui ont été récupérées. Je tiens à vous dire que nous avons 42 éléments de M23 qui se sont rendus parce que, selon les premières informations, ces éléments ont dit qu'ils n'attendaient que le déclenchement de la guerre pour se rendre parce qu'ils n'avaient plus de moyens de quitter la zone M23 parce qu'ils y étaient pris en otage. Il y a 14 capturés qui étaient parmi les durs du M23 qui sont là. Donc, au total, nous avons autour de 56 éléments qui sont entre les mains des FRDC. Et beaucoup d'armes ont été récupérées d'entre les positions qui ont été abandonnées par les quelques éléments M23. Donc, voilà comment se présente la situation actuellement. Mais comme toujours, vous savez, cette provocation a été faite, et l'invocation des FDLR, pour justifier demain que des pays voisins puissent entrer en ligne de compte, ils ont de ce qu'on a toujours appelé les droits de poursuite. C'est donc des stratégies utilisées parce qu'on sait que à l'heure qu'il est, la solution est en train d'être définitivement trouvée à la crise qui sévit à l'Est. Mais également nous amener, nous la province, à être tout le temps dans des programmes d'urgence et ne jamais nous inscrire dans des programmes durables de développement de la chère province du Nord-Kivu.
Monsieur le gouverneur, selon le porte-parole des FRDC, c'est depuis une semaine que les M23 menacent d'attaquer à nouveau la ville de Goma. Donc on suppose que vous êtes au courant d'une éventuelle attaque du M23.
C'est même avant une semaine, donc depuis que l'annonce de la brigade d'intervention a été faite, les éléments du M23 ont multiplié des campagnes. Ils ont réorganisé les troupes, ils ont repositionné leurs éléments pour essayer un peu de démontrer qu'ils sont capables de faire douter une force internationale. Nous étions informés et je crois que la
riposte... Mais qu'est-ce que vous avez fait pour prévenir cela? Qu'est-ce que vous avez fait pour prévenir cela, monsieur le gouverneur, puisque vous étiez informé?
La riposte qui vient d'être faite au M23, c'est lundi, est l'élément probant qui démontre que les FARDC étaient prêts, parce que tout simplement la perte de toutes les localités et la chasse des éléments du M23 pour les ramener vers les 20 km qui étaient décidés en est une preuve éloquente. Et les éléments qui se sont rendus plus les capturer, je crois que c'est des éléments pour ceux qui connaissent la tactique militaire qui démontrent que celui qui fait une telle riposte s'est bien préparé lorsque les affrontements commencent.
Merci, monsieur le gouverneur. Honorable Juvenal Mounoubo, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition, cadre de l'UNC. Vous êtes aussi rapporteur de la sous-commission Forces armées au sein de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Quelle analyse vous faites de cette situation?
Merci beaucoup, madame. Avant de vous donner mon analyse, je voudrais d'abord saluer monsieur Jason Sters. Je voulais saluer aussi le gouverneur Paluku, avec qui nous participons dans cette émission. Alors, l'analyse que je fais à ce niveau, c'est d'abord les hypothèses possibles de cette escalade de violence. Je crois que dans le chef du M23, c'est peut-être la peur face à l'arrivée de la brigade d'intervention offensive des Nations Unies. C'est une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est peut-être un moyen de pression, peut-être, vis-à-vis du gouvernement, parce qu'il faut savoir que la M23 demande finalement des choses impossibles au gouvernement. Lorsqu'il demande de rester avec le contrôle du Nord Kivu, d'organiser des opérations conjointes avec les FARDC contre les FDLR, l'intégration de leurs éléments, la reconnaissance de tous les actes qui ont été posés durant la rébellion, l'amnistie, etc. C'est quand même beaucoup de choses, c'est mettre la barre très haut. C'est peut-être aussi une démonstration comme quoi il serait prêt à faire face à la brigade. Mais moi, je crois que l'hypothèse qui semble se confirmer, c'est la deuxième. Donc, une sorte de pression pour peut-être amener le gouvernement à fléchir, à rentrer encore une fois à Kampala. Mais ici, comme député,
Mais ils sont toujours à Kampala.
Bien sûr, à Kampala, rien ne bouge depuis un certain temps. Ça, il faut reconnaître. Ils sont là, mais être à Kampala, en réalité, c'est dialoguer, c'est aller jusqu'à la conclusion de ce qu'ils avaient annoncé. Ça veut dire que le processus Kampala est en panne. Et moi, je me dis qu'on ne doit pas continuer à dialoguer éternellement. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, qu'ils nous disent si ça ne tient pas, si Kampala ne tiendra pas, si Kampala ne ramènera pas une solution à la crise à l'Est, c'est au gouvernement de les préciser d'ores et déjà. Je pense que la conférence internationale des Grands Lacs serait fautive aussi à ces niveaux. Pourquoi? Parce que suivant la décision qui avait été prise, que la M23 devrait se retirer de 20 km, la M23 ne l'a pas fait et on n'a pas senti, en tout cas moi je n'ai pas vu, une condamnation ferme de la conférence internationale des Grands Lacs.
Est-ce que ce n'est pas le gouvernement congolais qui devait faire pression sur la conférence internationale des régions des Grands Lacs?
Là je trouve que la conférence internationale des Grands Lacs devrait condamner dans des termes les plus forts cette attitude du M23. Bien sûr, vous avez raison, c'est au gouvernement d'afficher une capacité diplomatique assez forte, de signaler ce qui ne va pas au CIRGL. Vous avez tout à fait raison à la CIRGL. Je pense aussi que les mécanismes conjoints de vérification, parce qu'il existe quand même un mécanisme conjoint de vérification, c'est ces mécanismes qui devraient nous aider à vérifier tous ces mouvements bizarres. Mais que fait comme travail ces mécanismes conjoints de vérification? Est-ce qu'ils sont distraits? Est-ce qu'ils sont complices? Il y a lieu de s'interroger, de se poser des questions. Et les services des renseignements militaires congolais, Est-ce qu'ils ne se sont pas, pourquoi ils ne pouvaient pas se saisir de ces cas bien avant et sonner l'alarme? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des alertes, il y en a eu. Si vous suivez, il y a eu plusieurs communiqués de la société civile. On parlait même des militaires rwandais qui seraient entrés dans le territoire. Mais moi, je pourrais peut-être m'appuyer déjà sur les communiqués de la dépêche plutôt de l'agence France Presse qui disait que parmi les militaires qui avaient traversé la frontière avec Bosco Ntaganda, des centaines sont rentrés sur le territoire congolais. Donc je suis d'accord avec cet auditeur de Kalima, Monsieur Charles Ingene, qui dit que ce n'est pas une surprise. Il ne faudrait pas que ça soit perçu comme une surprise. C'était prévisible et comme il appelle, et comme il a appelé le gouvernement à protéger les populations civiles, je fais aussi cela. Je rappelle aussi que le gouvernement doit faire tout ce qu'il faut pour protéger les populations civiles et le gouvernement ne devrait pas se rabattre sur la brigade d'intervention qui est en fait une aide, qui est une solution à court terme. La solution à long terme, c'est d'abord une solution congolaise. Il faut faire un effort pour protéger les populations civiles, il faut réorganiser les choses, il faut organiser l'armée et éviter en tout cas à ces populations de vivre encore une semaine des cauchemars, des pillages, des viols, etc.
Alors, on va prendre pour vous, honorable Juvénal, cette réaction qui nous vient de Beni, au Nord Kivu.
Gérard Kazingoufou de Beni, province du Nord Kivu. Ça serait vraiment une aberration de résumer pour la énième fois les attaques du M23 à Goma et ses alentours à un simple chantage. Surtout que c'est à la veille de l'arrivée de Ban Ki-moon en RDC. Le M23, c'est vraiment une machine de grande puissance déterminé à morceler notre pays. Je réalise maintenant que les initiatives des Nations Unies dans le sens de pacifier l'Est n'apporteront rien dans notre pays. Le M23 à lui seul ne peut en aucun tenter de défier les Nations Unies. Il est grand temps pour tous les Congolais de se réveiller et réfléchir et voir comment protéger notre héritage qui est l'unité de notre pays.
Réaction honorable Juvénal.
Oui, je crois que je suis tout à fait, c'est un cri, c'est en fait de plaire d'une population en détresse. Vous savez, tout ce que la population, par exemple, de Goma a enduré durant la semaine là, d'occupation de la ville, eh bien, il faut tout faire. Il faut que les FRDC, le gouvernement congolais, donc, prennent toutes ses responsabilités. Il ne faut pas crier au triomphalisme. Pourquoi? Parce que si les FRDC ont pris les dessus aujourd'hui, nous espérons que ça va continuer. Il faudrait effectivement continuer dans cet élan. Pourquoi? Parce que la menace est toujours là. Donc il ne faudrait pas crier parce que, à entendre le gouverneur, il voulait un peu pousser, il voulait un peu glisser au triomphalisme, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc,
Et surtout quand c'est que Moutao, c'est à une dizaine de kilomètres de Goma.
Bien sûr. Donc il ne faut pas crier au triomphalisme. On risque d'être distrait. Il faut tout mettre en œuvre pour gérer cette situation parce qu'on acceptera pas de nouveau, par exemple, que Goma soit touché par le M23. Donc, il faut tout mettre en œuvre par rapport à cela. Merci. Il y a aussi une situation, je voudrais signaler ça. Vous savez, il y a une centaine d'officiers des FRDC qui sont ici à Kinshasa depuis des mois. En fait, ils étaient venus pour une formation pendant que les affrontements reprennent à l'Est. Donc, on doit nous dire, parmi ces officiers, s'il y a ceux-là qui doivent être permittés, il faut que ça s'efface le plus rapidement possible. S'il y a ceux-là qui seront mis à la disposition de la justice, peut-être pour trahison, complicité, il faut que cela soit connu le plus rapidement possible parce que rester ici, c'est quand même un coup sur le budget de l'État.
Merci, honorable Juvénal. Jason Sorms, je rappelle que vous êtes analyste des questions liées à la sécurité. Vous êtes aussi directeur d'un projet de recherche dénommé Projet Ousalama. Quelle est votre lecture de ces affrontements de ce matin entre les FRDC et les M23 à Moutao?
Pour moi, c'était pas question si il y allait avoir des affrontements, mais quand plutôt il y allait avoir des affrontements. Parce que comme le honorable Juvénal disait tout à l'heure, les négociations à Kampala sont plus ou moins mortes. Même s'il y a quelques personnes qui sont restées là-bas, et les négociations ne se poursuivent plus. Les positions, il y a un très grand écart entre la position du gouvernement et la position M23. Donc pour moi, comme les négociations ne se poursuivent plus, comme l'arrivée de la brigade d'intervention imminente, d'ailleurs le commandant est déjà là sur place, pour moi il était clair qu'il allait y avoir des affrontements. Et parmi les déceptions, pour moi, c'est le fait que quelque part, et la communauté internationale et toutes les parties impliquées dans le conflit ont jeté l'espoir d'avoir un compromis ou une solution négociée à ce conflit. Donc, c'est-à-dire pour tout le monde, c'est la logique militaire qui prime. Alors, qui a commencé, comment ça se passait à Moutarou. Pour moi, c'est pas tellement important. Pour moi, c'est le contexte et le processus qui est important. On est dans un processus militaire actuellement. Et tandis qu'on devrait être plutôt dans un processus politique. Je pense que personne n'a gagné à une énième guerre dans le Nord Kivu. Donc pour moi, la réaction, c'est une réaction de déception, de tristesse, que c'est arrivé jusqu'à ce stade. Je suis aussi d'accord avec l'honorable Juvenal dans le sens que il est dommage que les garde-fous qu'on a mis en place pour empêcher ce genre d'escalation, donc c'est-à-dire le mécanisme conjoint de vérification du CIRGL, le fait que l'M23 aurait dû s'éloigner de la ville de Goma, au moins de 20 kilomètres, tout cela, apparemment, je ne sais pas qui a abandonné ces garde-fous, mais tout cela n'est plus en place. Donc c'est un échec au niveau du processus politique, c'est un échec
donc,
au niveau...
Donc Kampala n'aura servi à rien, finalement.
Je pense, depuis le début, je pense que c'était parmi les échecs du gouvernement d'accepter un processus de Kampala qui, pour moi, était clair depuis le début qu'il n'allait pas arriver à grand-chose. Pas parce que les négociations sont tout à fait importantes, mais le cas de négociation à Kampala, d'abord, l'Ouganda a été une partie prise dans le conflit. D'après au moins le rapport des Nations Unies, le Kampala a appuyé un certain moment l'M23. Donc comment eux, ils allaient résoudre une crise qu'eux-mêmes, auquel eux-mêmes, ils avaient contribué. Et de deux, on n'avait pas vraiment un interlocuteur, un modérateur, facilitateur de puissance. Pour moi, ça aurait dû être les Nations Unies ou l'Union africaine depuis très longtemps. Et de trois, ce sont des négociations entre l'M23 et le gouvernement, mais toutes les autres groupes armés ne sont pas représentés là-dedans. Et les gouvernements qui ont été impliqués dans le processus ne sont pas représentés comme partie. Donc le Rwanda n'est pas là. Et nous savons assez bien que le Rwanda, au moins l'année passée, a été impliqué d'une manière substantive au sein de ce conflit. Donc pour moi, le processus de Kampala était important.
C'était déjà un faux départ.
C'était un faux départ, oui.
Alors on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bandundovi, non plutôt de Manzangungo Bakongo.
Pascal Kitenge, Banzangungu, Bakongo. Cette attaque du 1-23 qui intervient à l'arrivée du secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, ne doit pas laisser l'opinion nationale dupe, car chaque geste de ce mouvement doit être compris et interprété dans une vision qui prend en compte les visées des prédateurs bien identifiés qui commandent dans l'ombre. En réalité, le 1-23 veut, sous prétexte d'autodéfense, se repositionner avant le déploiement de la force multinationale.
Jason, réaction, le M23 voudrait se repositionner?
Je pense que de toutes les façons, l'M23 est en position de faiblesse. D'abord, l'M23 vient de subir une guerre interne qui opposait Bosco Ntaganda à Sultani Makenga. Bosco a fui avec plusieurs centaines de personnes au Rwanda, donc ils sont affaiblis militairement à cause de cela. De deux, l'arrivée de la brigade d'intervention effectivement est une menace pour l'M23, mais je dirais plus une menace politique qu'une menace militaire. C'est-à-dire, bon, on connaît pas la puissance militaire. On sait que c'est 3000 personnes, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Malawi. Mais on connaît pas la puissance militaire très bien, cette brigade. Mais la puissance politique est très claire. C'est-à-dire, avec cette brigade d'intervention, pour la première fois au sein des troupes de la MONUSCO, on aura des troupes qui proviennent de la région et des pays de la région qui ont eux-mêmes des intérêts dans ce conflit. Donc, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, si jamais l'M23 tue, par exemple, disons une dizaine de militaires tanzaniens, immédiatement, je pense, le président Kikwete va s'impliquer pour faire pression, pas seulement sur l'M23, mais aussi sur le Rwanda. D'ailleurs, le Rwanda l'a déjà dit. Le Rwanda dit, même si nous soutenons pas l'M23, on va toujours nous blâmer. Donc, pour eux et pour l'M23, je pense que l'implication de la brigade d'intervention est une nouvelle donne, une nouvelle dynamique dans ce conflit.
Et donc, pour vous, ce n'est pas une question de chercher à se repositionner parce que l'M23 est en position de faiblesse?
Non, effectivement. Je pense, comme d'ailleurs l'honorable Juvenal vient de le dire, c'est un rappel de l'M23 à tout le monde qu'il faut négocier avec eux. Donc, pour qu'on se rappelle qu'ils soient là, qu'il faut une négociation, ils font une pression militaire. Mais c'est une stratégie risquée, parce que ça pourrait provoquer le contraire aussi. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas négocier avec vous, vous nous agressez, pour nous, la solution militaire va primer. Donc, je pense pour eux, c'est une stratégie risquée, ils essayent de se repositionner avant que la brigade arrive, mais ce n'est pas évident qu'ils vont réussir.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, que devient finalement Kampala?
Oui, je dois donner une précision par rapport à deux ou trois choses.
D'abord, la première, c'est que, comme vous le savez, lorsque la CIRG l'avait demandé au M23 de se retirer, il avait donné mandat à la MONUSCO de devoir garder la zone tampon. Je voulais apporter cette précision parce qu'il y en a qui ont dit que non, c'est le gouvernement congolais qui devait faire pression. Non, c'était la MONUSCO qui devait garder la zone tampon. De deux, lorsque vous parlez de Kampala, l'opinion tant national qu'international doit savoir que si Kampala s'est arrêté, c'est parce que les éléments du M23 qui étaient représentés avaient demandé 3 jours de consultation auprès de leur hiérarchie. Ils se sont rendus à Bunagana et depuis lors, ils ne sont jamais rentrés. Voilà qui fait que le processus de Kampala semble piétiner, alors que le gouvernement, lui, était disposé à travers ses délégués qui y sont. Donc, c'est ça la précision que je voulais donner par rapport à Kampala. C'est pas de la volonté du gouvernement, mais c'est parce que les éléments du M23 se sont dit aller à consultation à Bunagana et depuis lors ne sont jamais rentrés.
Alors, monsieur le gouverneur, il y a l'honorable Juvenal Munubo qui a posé la question sur que fait finalement le mécanisme conjoint de vérification.
Oui, avant de répondre, je vais d'abord répondre à ce qu'il a appelé triomphalisme. Je crois que vous avez posé la question par rapport à la situation actuelle telle qu'elle se présente. Donc, donner la situation telle que les FARDC tiennent Mutaho, ce n'est pas un sentiment de triomphalisme, c'est restituer à l'opinion nationale et internationale ce qui se passe. Alors, d'autres questions, je crois que l'ensemble du processus tel qu'il est en train d'être géré mérite une attention particulière. Aujourd'hui, ce qui s'est fait à Mutaho doit nous interpeller parce que pour moi, je considère que c'est une provocation pour devoir justifier demain après demain une attitude qui était déjà conçue dans l'ombre, mais qu'on veut faire exécuter par une sorte de violation par la République démocratique du Congo de certains accords, de certains textes. Comment pensez-vous que la RDC, qui a fait foi à la communauté internationale, puisse aujourd'hui être en train de piloter une machine qui soit de nature à recréer la guerre, alors que tous nous connaissons que par le passé, que cette option n'avait pas porté de fruits. Donc je crois qu'on doit cesser d'être distrait par ce qui se passe aujourd'hui. Et les mécanismes conjoints de vérification, je dois préciser qu'ils n'avaient pas pour mandat de demander au M23 de reculer ou d'avoir une influence sur lui, mais ce mécanisme devait vérifier effectivement si tous les textes qui ont été signés jusque-là sont respectés et fait rapport à la CIRG qui devait se réunir à conférence ministérielle de manière à pouvoir proposer au sommet des chefs d'État ce qui devait être comme décision. Donc c'est un mécanisme qui est passif parce que son rôle est simplement de constater et de faire rapport et non pas d'agir. C'est une précision de taille que je dois donner à l'intention de ceux qui ont à lire encore davantage tous les textes parce que je considère que je constitue quand même une petite mémoire vivante de tous les textes qui concernent le processus de paix à l'est de la RDC et particulièrement dans la région des Grands Lacs.
Alors, on va prendre rapidement pour vous, monsieur le gouverneur, cette question qui nous vient de Bandunduville. Vous avez déjà commencé à répondre à la question sur Kampala, mais il y a une suite dans la question de cet auditeur de Bandundu.
Malonga Kubali de Bandunduville, dans la province de Bandundu. Quelle est la suite d'abord de Kampala? Vous voyez là où la majorité de la population congolaise n'a pas confiance de tous les accords initiés par le gouvernement depuis le début de cette guerre. Pourquoi encore la guerre peut commencer au moment où nous entendions la bonne nouvelle de Kampala?
Monsieur le gouverneur, sortira-t-il quelque chose de bon de Kampala brièvement?
Oui, je l'ai déjà dit, j'ai déjà répondu d'ailleurs à la question. Je crois que ce n'est pas par le gouvernement que Kampala est en train de piétiner. Je vous dis que les M23 avaient rappelé ses délégués jusqu'aujourd'hui. Ils ne sont jamais rentrés. De deux, c'est pas la volonté du gouvernement de vouloir la guerre. Tout le monde sait combien de guerres se sont succédées à l'Est. D'abord, en octobre avec Laurent Kunda. Ensuite, avec Bosco Ntaganda. Avec l'M23 en novembre dernier. Toutes ces péripéties-là nous ont donné comme certaines leçons que nous avons tirées dedans. Et aujourd'hui que on a fait recours à toute la communauté internationale pour venir nous aider, je ne vois pas un gouvernement responsable en train de vouloir la guerre alors qu'elle a fait recours à un mécanisme pour devoir venir à ses secousses. Donc je crois que c'est cela la compréhension que toute l'opinion doit avoir de ce qui se passe au nord Kivu.
Merci,
ce n'est ni de la volonté du gouvernement de faire la guerre, parce qu'il avait déjà fait recours à un mécanisme international.
Merci monsieur le gouverneur. Maître Juvenal Munubo, vous êtes aussi d'avis, comme Jason l'a dit, que c'était un faux départ déjà, ces concertations de Kampala. C'est pour parler de Kampala.
Oui, c'était un faux départ. En fait, s'il fallait passer cette question au référendum, s'il fallait le faire, eh bien, les populations de l'Est, tout ce qu'elles demandaient, c'est quoi? C'est que le gouvernement en vienne au bout militairement. Donc, c'est la solution militaire qui était clamée ou réclamée par la population à l'Est du Congo. Parce que ces populations vivent toutes ces souffrances atroces. Nous, nous sommes ici à Kinshasa, c'est quand même loin de Goma. Mais le gouvernement ayant effectivement choisi l'option politique, et tout le monde était attentif maintenant pour voir qu'est-ce que ça va donner comme solution. Maintenant qu'on est dans des négociations interminables, je vais dire, il faut que le gouvernement nous précise si le gouvernement n'a plus foi à Kampala. Est-ce que le gouvernement reste toujours lié à continuer à négocier avec la M23? Moi, je pense que le gouvernement, à un moment donné, doit fixer l'opinion. Surtout qu'au Nord Kivu, il n'y a pas que la M23 comme problème. Il y a plusieurs groupes armés et le gouvernement doit donner des réponses à tous ces groupes armés.
Alors, il y a cet auditeur héritier de Kisangani en province orientale qui dit ceci. La solution militaire n'amènera pas la paix dans l'est de la RDC. Le gouvernement et les M23 doivent laisser la guerre et avoir un dialogue sincère.
Oui, je pense aussi que notre armée affiche encore des faiblesses, il faut toujours le dire. Notre armée, c'est une armée en reconstruction. Mais moi, je pense que même dans l'état actuel de nos forces armées, vous savez que des militaires au front, il y a quand même des militaires congolais qui ont bénéficié des formations dans le cadre de la coopération bilatérale, multilatérale. Et donc, les grands problèmes au Congo, c'est, on l'a dit maintes fois, c'est les commandements. C'est au niveau des commandements où s'est posé des problèmes. Souvenez-vous, lors du siège de la ville de Goma, avant le siège de la ville de Goma, avant que Goma ne tombe entre les mains du 1-23, en novembre 2012, des militaires congolais se sont bien défendus sur le front. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne comprend pas toujours qu'à un moment donné, il y a des ordres qui descendent, on ne sait pas ça vient exactement d'où. C'est ça le problème. Donc, les gros affaires, c'est au niveau du commandement. Raison pour laquelle que le chef de l'État ait rappelé ses officiers à Kinshasa, je crois bien que c'était pour non seulement une causerie morale, mais voir dans quelle mesure restructurer les choses. Eh bien, cette restructuration devrait se faire le plus rapidement possible, au lieu de dégarnir l'Est de tous ces officiers, comme actuellement, qui devraient effectivement veiller au grain, parce que la situation risque de se détériorer. Ces officiers se trouvent ici. C'est pourquoi, en introduction, j'ai dit, il faudrait qu'on sache finalement qui rentre au Nord Kivu, qui seront mités ailleurs, et qui vont faire la justice, qui seront mis à la disposition de la justice, parce qu'il y en a de ceux-là qui doivent répondre devant la justice.
Alors, il y a l'autre réaction de Mbandaka, l'Équateur, Jean-François Ngando, qui dit ceci. Malgré les accusations de FRDC et les justifications du M23, le gouvernement congolais n'a pas pu négocier avec beaucoup de responsabilités pour un retour effectif de la paix. Et quoi qu'il en soit, le dialogue franc et sincère était aussi une occasion propice pour une paix durable. Malheureusement, le gouvernement l'a négligé au détriment de la brigade qui tarde à venir. Mais une chose est certaine, la fin de la guerre ne viendra ni de l'Amérique, ni de l'Asie, moins de l'Afrique. C'est un problème congolais.
Je crois que il faut prendre la dernière partie de son intervention, de l'intervention de cet auditeur, et c'est très intéressant. La fin de la guerre, la stabilité au Congo, dans la région des Grands Lacs, il ne faut pas attendre que la solution vienne de très loin. Donc, la solution doit être avant tout congolaise. Comme je l'ai dit à une étape de cette émission, il faut réformer l'armée, il faut construire l'armée, les secteurs de sécurité. Il faut améliorer les secteurs de sécurité, pas des services, des DGM qui laissent passer tout à la frontière sans contrôle rigoureux. Eh bien, je crois aussi qu'à un certain moment, il faudra engager un dialogue sincère sur le plan sous-régional. Les dialogues sincères, c'est un dialogue qui mettrait sur la table les dirigeants congolais, rwandais, ougandais, burundais, pour finalement examiner quelles sont les causes par rapport à tout ça. Parce que c'est pas normal que chaque fois qu'il y a une rébellion qui naît à l'est du Congo, le Rwanda est derrière. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit qu'il n'arrive pas à travers les mécanismes CIRGL. Peut-être que le CIRGL n'arrive pas jusque-là à aborder les vraies questions. Eh bien, il faut pousser plus vers ces dialogues sincères. Quel est le nerf du problème? Est-ce que ce sont des minéraux? C'est quoi exactement? Il faut qu'on arrive à identifier ce qui fait que chaque fois des troubles viennent à partir de l'Est. Le Congo n'a pas que des frontières. Le Congo a des frontières avec plusieurs pays. Mais pourquoi les frontières de l'Est posent toujours problème? Ça veut dire qu'il existe des problèmes qui ne sont peut-être pas abordés et peut-être que le Rwanda ne les pose pas très bien. Peut-être que le Congo ne les demande pas très clairement. Eh bien, il faut aller vers ces dialogues sincères et la communauté internationale, je crois, ne se refuserait pas d'accompagner les dirigeants de la sous-région pour ces dialogues de vérité.
Merci, honorable Munubo. Jason Stern, toujours dans la réaction de cet auditeur de Mbandaka. Pour lui, la faiblesse du gouvernement, c'est de trop compter sur la brigade qui doit arriver.
Bon, je pense que, et là je suis tout à fait d'accord avec l'honorable Juvenal, je pense que il faut pas voir seulement la solution militaire, il faut pas seulement dépendre des étrangers, il faut que petit à petit ce soit les Congolais qui puissent régler leurs propres problèmes. Je considère que ce sera un succès le jour, et je m'excuse de le dire parce que je suis dans les studios de Radio Capi, mais ce sera un grand succès le jour que les Nations Unies vont quitter le pays, parce que c'est-à-dire qu'on aura la paix ici. Donc, et ça, ce va être plutôt la victoire et le succès des Congolais et pas des étrangers, comme moi d'ailleurs je le suis. Pour revenir un peu à ce que l'honorable Juvenal vient de dire, je pense pour cela il faut chercher la solution ici à Kinshasa et aussi dans la sous-région. Et là je vous réfère à l'accord cadre. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose que nous avons finalement, après tant d'années, un processus de paix, ou quelque chose qui ressemble au moins à un processus de paix. Depuis 2006, après les premières élections, on n'a plus eu un vrai processus de paix ici dans le Congo, avec l'implication des Nations Unies, avec l'implication de l'Union africaine. Et l'accord cadre donne maintenant la possibilité justement d'aborder ces deux angles. D'un côté, d'abord, on a côté sous-régional, il y a volet de non-ingérence. Donc Robinson, Marie Robinson va premièrement se pencher sur cet angle-là. Comment, comme l'honorable Juvenal vient de dire, comment est-ce qu'on peut créer un dialogue franc dans la région, aborder les questions, et là je vois surtout la question de M23 et la question de l'FDLR, d'une façon franche. Deuxièmement, comment on peut aborder les problèmes de l'État congolais? Parce qu'il faut se dire que depuis, le processus de paix ici a réussi à faire beaucoup de choses, mais n'a pas réussi à reconstruire l'armée nationale, n'a pas réussi à rétablir l'autorité de l'État à l'Est. Et si nous avons toujours des nouvelles rébellions, et là, c'est pas seulement les 23, mais nous sommes, je pense, j'ai compté plus de 30 différents groupes armés à l'Est du Congo, c'est aussi parce que l'État congolais est faible.
Donc, vous parlez de la faiblesse de l'État congolais. Là, nous sommes déjà dans les solutions pour parler de la réforme de l'armée. Mais et puisqu'il y a un problème qui se pose maintenant, la réforme de l'armée, ça va prendre peut-être beaucoup de temps. Disons, mais quelle est la solution immédiate que l'on peut envisager?
Bon, d'abord, je pense qu'il faut, pour la solution immédiate, il faut se pencher sur ces deux groupes, l'FDLR et l'M23, et surtout l'M23 actuellement. Et là, le problème ne réside pas seulement en négociation avec l'M23, mais la solution réside aussi au Rwanda, Kigali. Je pense, pour parler franc, il y a beaucoup de preuves maintenant que le Rwanda, l'année passée au moins, a soutenu l'M23. Même si les preuves pour cette année sont beaucoup moins claires, je pense que le Rwanda Kigali a une responsabilité de mettre à l'écart l'M23 aujourd'hui. Donc, et de les amener à un compromis viable. C'était pas dire anéantir l'M23, mais c'est-à-dire les intégrer au sein de l'armée congolaise, les disperser comme tous les autres Congolais qui sont au sein de l'armée, doivent accepter d'être déployés partout dans le pays, et exclure les officiers qui sont sous sanction, qui ont commis des crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité. Ça, c'est un compromis viable. Et je pense que pour cela, il faut absolument l'implication du Rwanda. Et pour que le Rwanda soit impliqué, il faut que les bailleurs de fonds aussi fassent pression.
Et puisque le Rwanda nie toujours toute implication dans cette histoire, ça risque d'être compliqué.
Voilà, et c'est là que les bailleurs de fonds doivent jouer un grand rôle. Parce que le Rwanda, c'est un pays, justement, qui dépend de 46% dans son budget national, provient de la communauté internationale. L'année passée, on a vu la réaction. La communauté internationale a coupé plus de 200 millions de dollars d'aide envers le Rwanda. Le président américain Barack Obama a appelé lui-même le président rwandais pour dire que les États-Unis, ils savent qu'il y avait ce soutien, il faut que ça s'arrête. Donc, c'est ce genre d'implication, je pense qu'il était assez positif. On a vu les résultats. Mais il faut que ça continue. Et que ça s'arrête pas là, mais ça continue jusqu'à ce qu'il y ait un processus viable qui puisse amener à la paix.
Est-ce que le dialogue national pourrait être aussi une solution à cette crise dans l'Est de la RDC?
Là, je pense que c'est pour le député de l'opposition, plutôt de répondre à cette question. Je pense Il y a deux choses. D'abord, il est pour moi tout à fait clair qu'il faut avoir la réconciliation nationale. Et après les élections de 2011, très controversées, je pense qu'il faut avoir un processus où tout le monde soit impliqué, et la société civile, et l'opposition politique et le gouvernement, pour résoudre les problèmes de nature nationale. Mais en même temps, je pense pas, si on conditionne le processus de paix de l'M23 à un dialogue national, qui sera très compliqué, et qui est aussi quelque chose à longue durée, on risque de retarder, je pense, la solution de la paix à l'Est.
Merci, Jason. Monsieur le gouverneur, je vais vous donner la parole, honorable Mounoubo. Monsieur le gouverneur, il y a Isaac Vamporiki de Bukavu Sud qui dit ceci. Est-ce que le gouverneur peut nous rassurer que Goma ne va pas tomber après cette attaque des Moutao par le M23, Moutao qui est situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Goma?
Oui, madame, je ne suis pas militaire sur la ligne de front. Même si l'honorable a dit que on a dégarni le terrain, je voudrais d'abord répondre à ça. Je pense que le chef d'état-major général est basé à Kinshasa, mais il commande les FARDC. Le chef d'état-major force terrestre est basé à Kinshasa, mais il commande les FARDC. Le fait pour les officiers de se retrouver à Kinshasa ne doit pas être considéré comme une attitude qui puisse nous amener à une défaite demain. Parce que même à Kinshasa, on peut toujours commander les unités qui sont sur le terrain, surtout qu'on n'est pas seul officier dans la structure de commandement. On a des adjoints chargés des opérations, de l'administration et de tout et tout et tout. Parce que l'armée est organisée, on ne peut pas seulement commencer à dire qu'aujourd'hui le fait que les officiers soient à Kinshasa, c'est la catastrophe. De deux, je voudrais rappeler que le fait pour moi de devoir dire aujourd'hui que Moutao est entre les mains des FARDC m'amène à pouvoir toucher la conscience de tous les experts militaires, qu'on doit tirer des leçons effectivement de ce que nous avons connu à Tongo en 2008, lorsqu'on était au point de devoir en découdre avec les CNDP et que quelque chose est arrivé. On doit tirer des leçons avec ce qui s'est passé avec Bosco Ntaganda en avril 2012, lorsqu'on a eu une trêve de 5 jours. On doit tirer des leçons avec ce qui s'est passé le 15 novembre 2012, lorsqu'on était au point d'en découdre avec les M23, avec des centaines et centaines de morts à Kibumba, et que quelque chose soit arrivé. Donc ce sont ces expériences malheureuses-là qui doivent alimenter les nouvelles stratégies au niveau des experts militaires pour que ce qui se passe à Moutao aujourd'hui puisse se ressourcer auprès de ces expériences malheureuses et que finalement on mette en place un mécanisme qui ne nous ramène pas à ce que nous avons connu.
Donc
cela peut être ce que je peux donner comme petite observation aux experts
militaires. Alors je veux vous demander aussi de conclure parce qu'il nous reste moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission, monsieur le gouverneur. Brièvement, quelle est votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que j'encourage d'abord tous ces éléments qui sont au CDM23 qui sont en train de se rendre, parce qu'ils sont à Bunagana, à Rutshuru, à Rugari, à Kibumba, ils sont nombreux. Les Karandais qui se sont rendus nous ont clairement dit qu'il y en a beaucoup qui veulent se rendre, mais qui ne savent pas par où passer. Et que donc, je les encourage parce qu'il n'y a pas d'avenir dans les groupes armés. Tout cela qui veulent bien se rendre auprès de la base de MONUSCO, qu'ils soient les bienvenus, même à Goma, même à Bweremana, personne ne sera inquiété.
Merci.
Parce que nous voulons la paix. Et si demain, la M23 reste une coquille vide, je crois que ça sera une partie des solutions à cette crise qui se vit à l'est de la RDC.
Merci, monsieur le gouverneur. Maître Juvenal Mounoubo, un mot aussi en guise de conclusion.
Rapidement, donc, en guise de conclusion, je crois que le gouvernement doit répondre à la question Kampala, devons-nous continuer, oui ou non? Donc, la population congolaise voudrait bien avoir une réponse à cette question. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Que la brigade d'intervention offensive se déploie le plus rapidement possible. Nous savons que ce n'est pas une solution à tous les problèmes, ce n'est pas une panacée, mais c'est quand même une solution à court terme. Qu'elle se déploie le plus rapidement possible et qu'on sensibilise aussi les groupes armés à la remise des armes, parce qu'il y en a de ceux-là qui peuvent remettre les armes volontairement. Il faudrait aussi un dialogue national, inclusif. C'est important. Pourquoi? Parce que on ne peut pas mener et gagner ces paris sans la cohésion nationale. C'est pas pour le partage des postes, mais c'est pour échanger sur les stratégies de sortie de crise. Et ma formation politique a d'ailleurs un très bon plan de sortie de crise pour le Congo.
Merci, maître Juvenal. Jason, Un mot en guise de conclusion.
Je pense que la conclusion, c'est que la solution se trouvera et à Kinshasa et à Kigali. À Kinshasa, je pense qu'il faut réformer l'État, absolument. La corruption est un cancer qui gangrène au sein de l'État. Et à Kigali, je pense qu'il faut avoir un dialogue franc avec Kigali par rapport à la crise à l'Est.
Merci Jason Stern, c'est la fin de cette émission. Merci à Alain Rung qui est à la réalisation. Sous la supervision de Pelle Équipe et Lamondo, merci à Alain Goy qui a assuré la mise en onde. Au micro, Kéline Couté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiokabi.net. Rediffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.